Maseret Yevamot, résumé du Daf Samechvav. On commence, Mesrat Hashem, le septième perek de Maseret Yevamot. Ici, on va traiter la halakha d'une femme qui est mariée à un Kohen, qui a le droit de manger de la Trouma, elle et ses serviteurs. Si maintenant cette femme, elle interdit à son mari Kohen, par exemple, elle est une veuve à un Kohen Gadol, ou bien une divorcée qui s'est mariée avec un Kohen, idiot, et donc elle avait des serviteurs, ces serviteurs donc n'ont pas forcément le droit de manger de la Trouma, ça dépend quel est leur statut. Si c'est le mari qui en est responsable complètement, même s'il meurt, le mari sera responsable de les rembourser. Ou bien, si leur prix augmente, c'est le mari qui gagne. Ces esclaves-là, qu'on appelle Nirsetson Barzel, c'est un bien de fer, c'est-à-dire que c'est vraiment en coffre-fort gardé pour la femme, c'est le mari qui en est responsable complètement, donc ils peuvent manger de la Trouma malgré que sa femme lui est interdite. Si par contre il s'agit de serviteurs qui appartiennent à la femme et qui le mari a le droit d'en profiter, oui, mais c'est elle qui en est responsable, ceux-là ne peuvent pas manger de la Trouma puisqu'elle s'est mariée un mariage interdit avec un Kohen. La Mishnah dit ensuite, si par contre c'est une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël, et qui, passons d'abord par l'autre cas, une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen, tous ces types d'esclaves peuvent manger de la Trouma puisqu'elle est permise à son mari Kohen. Si inversement une fille de Kohen s'est mariée avec un Israël, tous ces types d'esclaves n'ont pas le droit de manger de la Trouma. La Gemara demande, mais comment ça se fait qu'une femme qui est interdite à un Kohen, finalement le mariage il est quand même valable, les Kiddushin ils sont valables. Donc pourquoi est-ce que tu me dis que ces serviteurs ne mangent pas de la Trouma? On devrait dire, selon les règles normales, qu'une femme ou un serviteur de Kohen mange lui-même de la Trouma, et non seulement lui-même, mais même ses propres serviteurs peuvent en manger aussi. Donc pour quelle raison ici on a dit que les serviteurs de cette femme-là ne mangent pas de la Trouma? La Gemara donne trois réponses. Première réponse, dit la Gemara, nous avons un principe qui dit qu'il faudrait, la femme du Kohen ou l'esclave du Kohen ne peut donner à ses serviteurs de la Trouma à condition uniquement que lui-même peut en manger. Or ici, cette femme-là ne peut pas en manger parce qu'elle est devenue halala par son mariage interdit avec son Kohen. Puisqu'elle n'en mange pas, elle ne donne pas non plus à ses serviteurs. Deuxième réponse, dit la Gemara, c'est qu'en réalité, Minatora, elle peut donner. Minatora, elle peut donner, simplement, ici, les Chachamim ont fait exprès de l'embêter pour qu'elle se dise, moi, je ne mange pas de la Trouma, mes serviteurs ne mangent pas de la Trouma, en quoi suis-je mariée à cet homme-là? Elle va se croire comme une femme qui reste chez cet homme-là hors mariage. Et donc, elle va se sentir mal à l'aise et elle va sortir de chez lui. C'est exactement ce qu'on cherche. Puisqu'elle lui interdit, on cherche à la mettre mal à l'aise pour qu'elle veuille sortir de chez son mari. Troisième réponse, dit la Gemara. C'est une xéra que les Chachamim ont fait. De peur que cette femme-là, après la mort de son mari, continue à donner à ses serviteurs à manger de la Trouma, alors qu'elle n'a plus de raison. Elle n'est plus mariée à un Kohen. Donc ici, les Chachamim ont dit que même du vivant de son mari, elle ne donnera pas à ses serviteurs. La Gemara ensuite ramène une marloquet dans le cas d'une femme qui amenait des biens au mariage, qui amenait des affaires, et le mari en est responsable complètement. Il est responsable de rendre la valeur de ces biens-là qu'elle a amenés au mariage. Et voici qu'ils sont divorcés, ou le mari est mort. Elle veut récupérer ce qu'elle a amené, et le mari lui dit, non, je te les paye, c'est ça ce qu'on a convenu, je te les paye, et je garde ces affaires-là. Eh bien, là-dessus, nous avons une marloquette. Est-ce que c'est elle qui a raison, qu'elle les récupère? Ou bien c'est lui qui a raison qu'il peut les payer. La Gemara développe un peu cette question-là, ramène des objections, des pour et des contre. Finalement, la Gemara dit que dans le cas où le mari en est totalement responsable, il pourrait leur donner de la Trouma même si ça ne lui appartient pas. C'est-à-dire, on n'a pas de preuve de la Mishnah que ça lui appartient. Le fait qu'il peut donner de la Trouma à ses esclaves-là, ce n'est que parce qu'il en est complètement responsable, mais pas pour autant que ça lui appartienne. Il se peut qu'en cas de divorce, il n'ait pas le droit de les garder et les payer si elle veut les récupérer. La Gemara ensuite ramène une braïta dans les deux sens. Une braïta qui viendrait renforcer le mari, une braïta qui viendrait renforcer celui qui va pour le côté de la femme. Finalement, la Gemara conclut qu'elle est comme Rav Yehuda qui dit qu'il donne raison à la femme qu'elle peut récupérer ses biens et que le mari ne peut pas les payer et les garder. La Gemara ensuite, donc la raison de cette raison, la Gemara dit, c'est parce que on devrait donner raison à la femme parce que ce sont des affaires qui ont été chez sa famille, à elle, depuis tout le temps, et donc sentimentalement, elle veut les garder, et c'est très raisonnable, donc c'est à elle que ça doit revenir. La Gemara ensuite ramène une histoire d'une femme qui s'était mariée, qui avait amené un manteau important, un manteau spécialement cher dans sa ktouva, c'est-à-dire le mari s'est engagé de le rembourser en cas de perte, Et finalement, le mari est mort, et voici que les héritiers ont posé ce manteau-là sur le mort lui-même, l'ont couvert avec. En principe, les habits d'un mort, ils deviennent assurim bana, ils sont interdits. Comment ça se fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on dit que puisque le manteau appartient à la femme, ils ne peuvent pas l'interdire? Ou bien je dis que non, ils peuvent l'interdire. La Gemara dit, ils peuvent l'interdire malgré que la femme pourrait le récupérer. Et puisque finalement l'interdiction qui se rapporte sur ce manteau, elle est tellement forte qu'elle interdit complètement le manteau, eh bien ça dépasse et ça fait sauter l'hypothèque de la femme qui pourrait le prendre même s'ils sont pas d'accord, elle pourrait récupérer son manteau et ne pas recevoir de l'argent en échange. Malgré tout, puisque ici il est devenu lui-même interdit, ce Issourana, il fait sauter cette hypothèque vers la femme et donc ça reste interdit.